Nous sommes lundi. La voix un petit peu enrouillée, je sais pas comment dire ça. Lundi le 7 juin 2021. Lendemain de victoire du Canadien de Montréal. Le Canadien est en avance. Canadien, olé, olé, olé! J'espère que vous allez bien. Bon matin, tout le monde. Yes, me voilà. Toujours une présentation de l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix, ce fameux podcast. Merci, hein? Oups, je vais fermer ça. Hey, réservez vos temps de départ. En fin de semaine, c'était sublime. 819-522-6622 et la nouvelle terrasse qui est ouverte, pas en entier, mais une bonne partie. On a joué dimanche matin, il faisait chaud. Il faisait beau, le terrain est en parfaite condition. Lâchez un coup de fil, appelez là-bas, prenez vos temps de départ. Vraiment, là, les conditions sont incroyables. Puis il va faire chaud cette semaine. Donc, puis après ça, ça se relaxe un peu. Hein? Deux grosses journées de chaleur. Puis après ça, on retombe à des 24-23, là, qui est parfait pour jouer au golf avec du soleil. J'ai regardé, je pense, les prédictions, les prévisions des deux prochaines semaines, puis c'est du soleil mur à mur. Donc, profitez-en pour golfer, ça va être des conditions parfaites. On parle du Canadien ce matin, bien entendu. Le Canadien qui l'emporte hier soir, puis de façon écrasante, là, 5-1 contre les Jets. C'était pas parti pour ça. Hein, la première période, c'était un peu soporifique. Là, il se passait pas grand-chose. On voulait pas faire d'erreur, on voulait pas donner le premier but à l'adversaire. Puis finalement, Corey Perry sur une séquence complètement folle où est-ce qu'on avait l'impression de voir Corey Perry de 2007 alors qu'il évoluait avec les Ducks d'Anaheim et que les Ducks ont remporté la Coupe Stanley. On avait l'impression de voir ce bon vieux Corey-là contrôle la rondelle autour de la zone. Tous les adversaires tombent devant lui. Stick Handling réussit à faire 2-3 moves. Finalement, revient devant le filet. Il y a des gens, des joueurs devant le filet. Et lui, met ça dedans. Au bout. Excusez-moi, là, la voix ne marche pas le matin. Mais réussit à mettre ça dans le net, là, du bout des bras, comme si de rien n'était. Donc, le bon vieux Corey Perry qui était de retour hier soir. Et Corey Perry joue toute une série, là, toutes des séries. En fait, il avait bien, très, très bien fait contre les Maple Leafs. Puis, il poursuit ça contre les Jets. Puis, ça se demandait comment que les Jets ont fait pour gagner ça en 4 contre les Oilers. J'ai dit à la blague sur mes pages, c'est à croire que les Oilers avaient gagé sur les Jets puis qu'ils ont laissé gagner parce que ça n'a quasiment aucun sens. Les Jets sont méconnaissables. Est-ce que la perte d'un Mark Scheifele pour 4 matchs, justement, ça vient tellement leur avoir scié les jambes? C'est à se poser la question. Vraiment, est-ce que Mark Scheifele était à ce point le joueur dominant ou était à ce point dominant pour que sa perte se traduise par une défaite en 4 matchs là, du côté des Jets? Parce que là, le Canadien mène 3-0 dans cette série-là et je vois vraiment pas comment les Jets pourraient revenir. Le Canadien contrôle complètement et il y a comme une porte de garage en avant du net aussi. Hein? Il n'y a pas Carey Price qui donne absolument rien. J'ai fait la blague aussi sur ma page au cours du week-end. Il est bon ce bon vieux Patrick, je veux dire Carey, parce qu'on a l'impression de voir Patrick Roy devant le net en ce moment. La détermination, le regard de feu, la complicité avec ses joueurs, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années de Patrick Roy à Montréal, souvent on s'en remettait à Patrick et Patrick, lui, au lieu de s'apitoyer sur son sort ou peu importe, il était toujours en train de donner des petits coups ses jambières de ses défenseurs, les encourager. Donc tu sais, on dit toujours « Ah, le gardien », mais tu sais, l'équipe en tant que telle, l'aspect défensif total d'une équipe, ça passe par beaucoup, justement, la communication entre le gardien, les défenseurs, ou plutôt le jeu, tu sais, d'ensemble, dans la zone, en fait. Donc, c'est pas négligeable. Là. Les défenseurs du Canadien font un excellent travail aussi. Il n'y a pas Il n'y a pas des grosses, grosses chances de marquer qui sont données aux Jets en ce moment. Il y a des chances de marquer, c'est sûr, il y en a toujours. Puis Carey fait les gros arrêts, là, notamment vendredi soir contre Ehlers, Nicolas Ehlers, qui se trouve à tirer la rondelle un peu vers lui pour faire un lancer un peu masqué et un peu caché, si on veut, puis tout ça. Et Carey qui fait juste se déplacer sans voir la rondelle partir, mais il savait exactement qu'est-ce que Ehlers voulait faire comme jeu. T'sais, il voulait tirer la rondelle, lancer, puis utiliser l'écran qu'il y avait, t'sais, les joueurs devant le filet, tout ça. Puis Carey se déplace square, comme on dit, là, t'sais, carré dans son filet. Exactement, la rondelle a frappé exactement en plein milieu du logo du Canadien. Donc ça, c'est un goaler en confiance. C'est quelqu'un qui se déplace, qui sait exactement ce que les joueurs veulent faire ou qui a un step en avant pour voir le jeu se dessiner. Puis c'est exactement ça Carey Price en ce moment. Là, pour vrai, il y a de quoi de magique. J'ai vu ça. Je l'ai dit moi aussi sur mes pages, mais je l'ai vu à d'autres endroits aussi. Il y a quelque chose de magique qui se passe avec cette équipe-là présentement. Revenir d'un déficit de 3-1 contre les Maple Leafs, de la manière que ça a été fait, remporté en 7 matchs, tout le monde a l'air heureux, tout le monde a l'air de s'encourager, ça a l'air vraiment de travailler, tout le monde travaille dans la même direction. Et premier match contre les Jets, il arrive ce qui arrive avec Scheifele. Scheifele est suspendu 4 matchs. On dirait que ça resserre encore plus la formation, les liens dans la formation. Puis tabarouette, je sais pas qui va arrêter cette équipe-là. D'ailleurs, le quatrième match de la série, ça pourrait se terminer dès ce soir au Centre Bell. Match à 8h ce soir. Deux matchs en 24 heures. Et Dominique Ducharme a déjà dit que ça allait être Carey Price devant le filet. C'est pas une grande surprise, là. Je vois pas comment il pourrait annoncer que Jake Allen va gauler avant l'année prochaine. Ça, c'est impensable. Mais bon, écoutez. Les Golden Knights l'ont fait au premier match contre l'Avalanche, mais en tout cas, je doute que ça puisse arriver avec le Canadien. Je pense pas que ça va se faire. Donc, ce soir, est-ce que le Canadien l'emporte? Est-ce que ça se termine ce soir? Est-ce que le Canadien peut faire le coup aux Jets qu'ils ont fait eux-mêmes aux Oilers en première ronde, c'est-à-dire les balayer en 4 matchs? J'y crois de la manière que le Canadien joue. Puis les Jets sont mauvais. Les Jets, ils font rien. Les Jets, ils patinent pas. Ils créent pas d'offensive plus qu'il faut. Et ils s'en remettent un peu aussi, eux autres aussi, à leur gardien de but. Là. Connor Hellebuck, qui est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, peut rien faire. Là. Puis le Canadien n'avait pas marqué beaucoup de buts dans les 3 premiers matchs, même dans les 4 premiers matchs contre les Maple Leafs. Et je voyais une statistique hier qui disait que dans les 6 derniers matchs, ils ont marqué 21 buts. Donc, c'est je pense qu'ils ont retrouvé leur repère et leur appui offensif. Puis, c'est pas trop... tu sais, il y a peut-être un lien à faire aussi avec l'entrée en scène là, des joueurs qui n'étaient pas dans la formation au début de la série contre les Maple Leafs. C'est-à-dire Cole Caulfield qui vient, je sais pas, il vient donner de la confiance à Nick Suzuki. Il vient vraiment... On a l'impression que c'est le body à Suzuki là, qui vient de rentrer dans la formation puis qui donne un peu de jus, un peu de power justement à Nick Suzuki. L'entrée en scène de Kotkaniemi aussi. Kotkaniemi en saison, on le voyait pas, tout ça. Rentre dans la formation, donne du speed, de la vitesse, puis il joue très bien défensivement, Jesperi Kotkaniemi. Je sais pas qu'est-ce que Claude Julien lui reprochait nécessairement dans son jeu de défensif, mais pour vrai, il est tellement rapide, il est grand, il voit bien le jeu et quand il saisit la rondelle en zone défensive, là, c'est pas long, il sait exactement à qui remettre la rondelle pour relancer l'attaque. Puis ça, c'est un aspect du jeu qui n'est pas souvent regardé sur les jeunes joueurs, mais lui fait super bien ça. Donc, ce qui fait que quand tu récupères la rondelle dans ta zone, la pire affaire qui peut arriver parce que tu viens de la récupérer, genre tu viens de faire un bon jeu, c'est de la perdre avec une mauvaise passe ou quand tu gardes la rondelle trop longtemps, puis la pression vient sur toi, puis tu es obligé de t'en débarrasser à des espaces libres en zone neutre ou un joueur adverse parce que justement tes joueurs, tes voies plus sont plus démarqués. Fait que tu sais, ça c'est une belle qualité, je pense, chez un joueur de centre surtout parce que c'est souvent lui qui vient appuyer la défensive en zone défensive, tout ça. Donc, en tout cas, mon humble analyse du jeu de KK, comme les partisans du Canadien aiment bien l'appeler, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est un peu ça. Puis, on s'ennuie pas de présentement là, en défensive, on s'ennuie pas tout à fait de trop de Romanov, malgré le fait que je pense que beaucoup aimeraient le voir dans la formation. C'est sûr que ce gars-là a fait quelque chose de pas correct. Là. C'est sûr que ça s'est passé en dehors de la glace, ça s'est passé sur un règlement d'équipe ou sur le respect de certaines affaires qui sont mises en place par l'équipe, parce que sinon ce gars-là probablement jouerait en ce moment, là, ou aurait joué plutôt dans la série contre les Maple Leafs, serait probablement encore de la formation, mais c'est ça. Mais en tout cas, on s'en est eu pas trop comme c'est là. Donc, est-ce que le Canadien finit ça ce soir? Ma prédiction, oui, le Canadien va remporter ça en 4 matchs ce soir grâce à une victoire de genre 3-1 avec un but dans un filet désert de Cole Caulfield. Voilà. Ça peut pas être plus précis comme prédiction, je vous dirais, c'est pas mal ça à coche. Hier soir aussi, la série de cette division-là, l'Avalanche contre les Golden Knights de Vegas, le quatrième match avait lieu hier soir. La série avant ce match-là était 2-1 pour l'Avalanche. Donc l'Avalanche qui avait remporté le premier match de façon écrasante, alors que Peter DeBoer, le coach des Golden Knights, avait décidé d'envoyer Robin Leonard dans le net à la place de Marc-André Fleury, alors que Fleury avait été vraiment tout feu tout flamme là, dans la série de première ronde. Décide d'envoyer Leonard pour reposer Marc-André Fleury. Imaginez-vous donc, saison de 56 matchs, beaucoup de traveling, on s'entend, mais saison de 56 matchs dont Fleury n'a pas disputé l'entièreté des matchs. Et on arrive en deuxième ronde, premier match, et DeBoer décide de reposer son gardien de but numéro 1. L'Avalanche qui en profite. L'Avalanche remporte le deuxième match aussi. Et là, on arrive à Vegas devant une salle comble, hein, une foule complète là-bas. Et les Golden Knights reviennent tranquillement, remportent le troisième match, en fait, si je ne me trompe pas, c'est en prolongation ou fin de troisième période. Là, je ne me souviens pas exactement. Et hier avait lieu le quatrième match, justement. Et les Golden Knights l'ont encore remporté. Donc, la série est égale 2-2, alors que tout le monde disait « Ah, l'Avalanche s'en va directement en finale de la Coupe Stanley, c'est une équipe qui est trop forte. » J'ai même vu des articles de journaux qui disaient « Est-ce que l'Avalanche est trop fort pour la Ligue? » Fait que je pense que les Golden Knights sont pas d'accord avec cette affirmation-là, puis ils l'ont prouvé hier soir en créant l'égalité dans cette série-là. Et moi, je pense que la finale de la Coupe Stanley se joue dans cette série-là, peu importe qui va l'emporter. Je pense que c'est probablement les deux meilleures équipes de la Ligue nationale qui s'affrontent en ce moment. Puis là, ben, grosse chance que ça se rende en 7 matchs. On s'entend, c'est 2-2 présentement. Il y a des bonnes chances que cette série-là aille jusqu'au bout. Et d'après moi, le gagnant de cette série-là va remporter la Coupe Stanley. Peu importe si c'est l'Avalanche ou les Golden Knights, ils vont sortir très, très fort, très, très vainqueurs de cette série-là. Puis ensuite de ça, ça va être très difficile de les arrêter. Surtout que le gagnant va affronter le Canadien. Canadien qui est confiant présentement, puis tout va bien. Mais si vous regardez un petit peu les séries, puis le style de jeu qui se passe dans chacune des divisions, la division canadienne, la division Nord, même si on est bien chauvin puis qu'on est très partisan du Canadien, ça accote pas le niveau de hockey qui se joue dans les autres divisions en ce moment. Présentement, ça joue du gros hockey entre le Lightning puis la Caroline. Le Lightning qui mène 3-1, qui pourrait finir ça demain. Dans la division, justement, les Golden Knights contre l'Avalanche, ça joue du hockey incroyable. Puis je vois pas comment le Canadien ou les Jets peuvent rivaliser avec une de ces deux équipes-là pour la troisième ronde. Les Bruins, les Islanders, c'est du hockey de série, là, du bon hockey de série. Puis il faut pas manquer une minute de cette série-là. Donc quand on regarde les autres divisions, puis qu'après ça, on regarde le match du Canadien qui... Bon, je les adore, là, puis je suis go abs, go all the way présentement, ça c'est certain. Mais force est d'admettre que il y a moins d'intensité, mettons, dans cette série-là, quand on compare aux trois autres séries en ce moment. Fait que à suivre, là, c'est pas moi qui décide, hein, c'est eux autres. Mais ça, c'est une des forces, je pense, du Canadien, c'est qu'ils ont su s'adapter au niveau d'intensité, au niveau de jeu de l'adversaire. Présentement, les Jets sont amorphes. Ils jouent pas du hockey rapide comme ils ont joué dans la saison à plusieurs moments. Donc, le Canadien voit bien qu'ils peuvent pas réduire, mais diminuer la vitesse un peu, puis contrôler un peu plus la rondelle. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc, le jeu est moins intense et moins rapide. Par contre, en possession de rondelle, en puck control, là, c'est une clinique que le Canadien est en train de donner aux Jets, là, carrément. Donc, c'est tout pour le hockey, hein? On va passer au baseball un peu de baseball. Les Blue Jays sont en action contre les Astros de Houston en fin de semaine. Donc, deuxième série à Buffalo, au Salem Field. Et les Blue Jays ont splitté ça un peu. Comme ça arrive souvent dans les équipes avec des grosses attaques, donc les Jays et les Astros ont des grosses attaques, ça arrive souvent qu'il y ait un blowout la première game. Après ça, la deuxième game, c'est un blowout, mais dans le sens inverse. Puis le troisième game, c'est le split, hein? Donc, les Astros ont remporté le premier match, 13-1, si je me trompe pas. J'ai pas les. J'ai-tu les résultats devant moi? Attendez-moi vous dire ça. Blue Jays, voilà. Donc, les Astros remportent le premier match, c'est ça, 13-1. Après ça, les Blue Jays reviennent samedi, l'emportent 6-2. Donc, sans dire un blowout, une belle performance. Et les Astros remportent la série là, hier grâce à une victoire de 6-3. Et les Blue Jays, c'est comme ça. Ils ont des bonnes performances. D'autres fois, les matchs, c'est moins beau comme vendredi. La défaite de 13-1, ça a frappé du côté des Astros. Et là, comme c'est souvent le cas, les Blue Jays sont en congé lundi, donc sont en congé ce soir et partent sur la route pour affronter les White Sox de Chicago à partir de mardi. Ensuite de ça, vont être à Boston pour le week-end et début de la semaine prochaine, vont affronter les Yankees à Buffalo. Vont revenir à la maison là, pour affronter les Yankees. Et les Yankees sont sur une... c'est une équipe de séquence. Ils sont sur une séquence de 4 défaites de suite. Donc, on verra où est-ce qu'ils en sont quand on va les affronter la semaine prochaine, mais définitivement une équipe de séquence. Ce qui m'amène à parler, c'est que la Ligue nationale a offert une extension ou une permission spéciale pour les deux dernières rondes de la Coupe Stanley, là, de la NHL. Les équipes canadiennes et les équipes américaines vont pouvoir passer la frontière sans respecter une quarantaine obligatoire, là, qui est obligatoire présentement. Et ça, c'est une permission qui est attribuée, qui est donné à la Ligue nationale de hockey. Donc, l'équipe canadienne qui va passer en troisième ronde va pouvoir recevoir les équipes américaines du côté du Canada. On n'était pas certain de ça. Ça aurait pu être l'inverse, là. Le Canada aurait pu devoir aller disputer ces matchs-là aux États-Unis, donc dans un domicile autre que le sien. Et aurait pu accueillir, par contre, des partisans là, aux États-Unis. Mais bon, les partisans, grosse chance, auraient pris pour l'autre équipe, en fait. Donc là, ça va se passer du côté du Canada. Donc si le Canadien l'emporte, passe en troisième ronde, va affronter le gagnant de l'Avalanche contre les Golden Knights et ça va pouvoir se passer au Centre Bell devant des partisans. Donc ça va être bien. Par contre, les Blue Jays, présentement, jouent du côté des États-Unis. Joue à Buffalo. Et de ce que j'ai vu sur la cédule, dans le fond, il y a une vente de billets qui a commencé pour le 16 juillet au Rogers Center. Donc, est-ce que cette permission-là va être aussi donnée aux Blue Jays à compter du 16 juillet, justement, là, date à laquelle la vente de billets a commencé? Est-ce que ça va être le même principe? Est-ce que les Blue Jays vont pouvoir recevoir les équipes américaines du côté du Rogers Center? Est-ce qu'il va y avoir des partisans? On va le savoir bientôt parce que je crois que c'est le 11 juin que l'Ontario va annoncer son plan de déconfinement. Donc, est-ce qu'il va y avoir des partisans? Est-ce que ça va se passer? Bien hâte de voir ça, comment ça va se dérouler. Parce que là, les Blue Jays vont vouloir faire des pressions sur, justement, le gouvernement du Canada en disant, bien, vous avez permis à des équipes américaines de la Ligue nationale de venir au Canada sans respecter de quarantaine. Pourquoi les équipes du baseball majeur ne pourraient pas faire la même chose alors que les joueurs sont vaccinés, je pense, à 100%? Pourquoi ça ne pourrait pas se faire? Il va y avoir de la pression, donc moi j'ai l'impression que on va en discuter cette semaine avec la gang de Passion MLB, mais j'ai comme l'impression que la date du 16 juillet va peut-être même être devancée, puis on pourrait voir des matchs au Rogers Center, même dès le 1er juillet peut-être pour la fête du Canada. À suivre, on verra, ça va dépendre, mais je vais lancer la discussion au gars de Passion MLB cette semaine, ça c'est certain, parce qu'on pourrait en discuter un peu, ça pourrait être bien intéressant, mais j'espère le voir en fait, j'espère que ça va arriver. À suivre. Du côté de Roland Garros, présentement au tennis, hier, Roger Federer. Roger a remporté ses trois premiers matchs et de son propre aveu, est pas mal surpris de l'avoir fait. Hein? En fait, il ne pensait pas se rendre aussi loin dans le tournoi, donc il serait présentement à la ronde huitième de finale, mais il a déclaré forfait. Il a déclaré forfait pour conserver un petit peu son corps parce qu'il n'a pas joué beaucoup de tennis, puis il a décidé avec son équipe qui allait se conserver pour la saison sur gazon. Et je pense que c'est probablement la meilleure décision parce que si Roger a une chance, puis Roger joue pour les grands chelems en ce moment, là, je veux dire, il n'a plus besoin de faire de l'argent, il a gagné dans sa carrière juste en bourse, sans les commanditaires, il a gagné au-dessus de 129 millions d'euros. Donc, d'après moi, il est capable de faire la job. Puis sa fiche est incroyable, j'en parlais justement avec ma blonde hier soir, puis je disais, la fiche de Roger Federer en carrière depuis 1998 et de 1243 victoires versus 273 défaites. Le gars a perdu seulement 273 matchs de tennis depuis 1998. C'est complètement fou. Le gars a remporté 111 tournois. Okay? Puis on s'entend, là, dans les 5, 6, 7 dernières années, il n'a pas remporté beaucoup de tournois, là, Roger. Ça veut dire que c'est incroyable ce qu'il a fait là, dans son prime. Là. Puis il continue de gagner. Fait que là, il veut se donner une chance de remporter Wimbledon, qui est le tournoi qui a le plus de chances de remporter parce que c'est le tournoi où il a été le plus solide dans sa carrière. Donc lui, il se dit, OK, ben tu sais, quand tu peux faire ça dans ta vie, dire « Bon, j'ai gagné trois rondes, je pourrais peut-être gagner Roland-Garros, mais ça va trop hypothéquer mon corps, puis je pourrais pas gagner Wimbledon, puis qui décide de déclarer forfait. » Ça, c'est comme faire comme « OK, j'ai plus besoin vraiment de remporter des matchs de tennis dans ma vie pour gagner ma vie. Je vais juste targeter ce que je veux gagner, tu sais, puis je vais le faire. » Fait que c'est assez incroyable quand même, là. Puis il y avait vraiment bien joué. Tu sais, Roger, c'est pas un spécialiste de terre battue. Puis il a super bien joué là, pour remporter ses trois matchs à date. Et il était rendu justement en huitième de finale où est-ce qu'il s'attendait probablement pas d'être rendu là, tu sais, à ce stade-ci dans le début de deuxième semaine du tournoi. Fait que c'est assez incroyable. Fait qu'on va suivre ça. J'ai hâte que la saison sur gazon commence. Puis j'espère qu'il a pris une bonne décision puis qu'il va être solide sur le gazon. Mais j'en doute pas. Il est assez solide là, dans cette partie de la saison-là. Donc, à suivre. Sinon, ben Serena Williams s'est fait sortir hier. Et bon, bizarrement, je m'attendais à avoir plus un hécatombe au niveau des têtes de série, mais les têtes de série remportent leur match, donc la préparation d'avant Roland-Garros, comme j'en ai parlé à quelques occasions, je disais que bon, les joueurs n'avaient pas fait autant de tournois, puis ils n'avaient pas eu les mêmes préparations, puis que souvent, il y a des joueurs qui sont classés dans la deuxième partie du top 100 mondial qui vont gagner des matchs contre des têtes de série bien mieux placés au classement que eux, parce qu'eux sont des spécialistes un peu plus de terre battue, bien là, ça se passe pas. Là. Les têtes de série remportent leur match. Les Djokovic, Zverev, Nadal, c'est certain. On s'attendait qu'elle ait remporté ses matchs, tout ça. Et même, tu sais, dans le top 10, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se sont fait éliminer, à part Dominic Thiem, qui était vraiment une grosse surprise de le voir se faire sortir au premier tour, qui était, je pense, quatrième tête de série. Mais sinon, les têtes de série remportent leur match, puis c'est de bon augure pour la fin du tournoi. On va avoir vraiment une bonne compétition, à part Roger là, qui a déclaré forfait. Fait que, à suivre, mais il y a des bons matchs de tennis qui se jouent là. Super intéressant de suivre ça. Au golf, John Rahm, alors qu'il est meneur par 6 coups au tournoi en fin de semaine, doit déclarer forfait à cause qu'il est déclaré positif à la COVID et se fait annoncer ça sur le terrain pendant qu'il joue. Ça fait annoncer ça par un des intervenants du tournoi qui vient lui dire hey, « Tu peux pas continuer, tu dois arrêter ton tournoi. » Et bon, le tournoi s'est déroulé, le tournoi s'est remporté en trous supplémentaires et force est d'admettre que probablement Ram aurait remporté ce tournoi-là. Mais bon, les règlements sont les règlements. On peut pas laisser jouer avec la COVID alors qu'il est devant une foule et qu'il partage avec les autres joueurs et tout là. Donc, mais peut-être qu'on va voir justement d'autres joueurs être déclarés positifs à cause de ça, vu que lui était positif, qu'il s'est promené là, sans masque un peu partout à ce tournoi-là. Donc, à suivre, mais bizarre de voir ça à la télé, de voir John Ram se faire dire « Ok, tu peux pas continuer, il faut que tu arrêtes. » C'était pas mal weird de voir ça, donc... Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour ce matin. Puis je vous souhaite de passer une belle journée. Il va faire chaud en tabarouette. Donc si vous avez une piscine à portée de main, faites une petite trempette sur votre heure de lunch. C'est ce que je risque de faire. Je vais sûrement aller me baigner sur l'heure du lunch. Aller me rafraîchir un peu. Fait que faites la même chose, profitez-en. Puis après ça, ben quand la grosse chaleur va être passée, là, ben allez jouer au golf justement à l'auberge des clubs de golf Héritage. Je rappelle le numéro de téléphone 819-522-6 6622, prenez vos temps de départ pour la semaine. Il va faire beau, il fera pas trop chaud à partir de mercredi. Profitez-en. All right. Bon, ben sur ce, bonne journée. Ciao.